Je me souviens d'une très courte scène dans le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, une scène où Michael Lonsdale est endormi. Dans ce film, il est le frère Luc, celui qui soigne, dans ce monastère dont on pénètre le quotidien au cœur de la classe algérienne, un film dont je ne dirai rien. Sinon, cette scène de sommeil, c'est très court, à peine quelques secondes, il s'est endormi en lisant les lettres persanes de Montesquieu. Il a toujours ses lunettes sur le nez, la lumière est encore allumée et il ronfle. Il ronfle très très fort, ce qui donne à cette scène des airs de comédie. En l'occurrence, un autre moine vient éteindre sa lumière, retirer ses lunettes et le border comme si de rien n'était, sans même le réveiller. Je sais pas comment, pourquoi il me revient cette scène en particulier, mais c'est comme ça que je le revois, endormi mais respirant, dans un ronflement aussi drôle qu'émouvant, après avoir lu un livre, sans doute à voix haute. Un matin, je me souviens, il m'a dit que certaines personnes étaient des poèmes, en eux-mêmes. Ça m'a donné envie de l'entendre à nouveau et de partager avec vous ce qui a été pour moi un très beau moment de radio. C'était à ce micro, il y a 4 ans et demi, Michael Lonsdale parlait de poésie.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui a fait de la poésie une religion. La poésie, il la lit, il la récite, il la célèbre, il la transmet. C'est un grand comédien qui est apparu dans plus de 150 films et autant de pièces de théâtre et qui, depuis plus de 60 ans, fait vibrer les plus beaux textes au son de sa voix reconnaissable entre mille. Il est le parrain de la 18e édition du Printemps des Poètes qui s'ouvre demain dans toute la France et qui défend la place de la poésie au quotidien, dans nos vies. Bonjour Michael Lonsdale.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous pourriez vivre sans poésie, vous ?
Oh non. Non, c'est comme la musique, tout ça, ça fait partie des merveilles du monde et je serais triste de plus pouvoir lire la poésie.
Quand je dis que pour vous, c'est une religion, la poésie, j'y vais un peu fort, ou il y a de ça ?
Non, il y a de ça, c'est une création. Hein, c'est... Dieu a créé le monde, et ben, il a donné la possibilité à ses enfants de créer.
On entend votre parole de croyant qui va revenir dans cette émission. Vous trouvez qu'aujourd'hui, on l'entend suffisamment, la poésie, Michael Lonsdale, qu'on lui donne suffisamment de place ?
Non, pas assez. C'est-à-dire qu'elle est pas mal chantée par beaucoup de... Oui. De musique, mais non, il y a une paresse là, je sais pas pourquoi.
Elle est où la poésie à votre avis aujourd'hui ?
Elle est, écoutez, elle est dans plusieurs pays, je sais pas, il y a des noms.
Mais où est-ce qu'on la trouve au quotidien ?
Des fois, il y a des êtres qui sont douillins, très poétiques, je trouve, mais oui, là, c'est quand même l'écriture et ce sont les fleurs de l'oreille, je trouve.
En réalité, on la trouve dans nos têtes, souvent la poésie, sous forme d'alexandrins qui ressurgissent, vous savez, plus ou moins vagues, plus ou moins tenaces, des poèmes d'Écolier, de Prévert, de Rimbaud, de Baudelaire. Le premier poème que vous ayez appris à l'école, vous, c'était quoi ? Vous vous en souvenez ?
Je crois que c'était, oui, le corbeau, le renard, oui.
La fontaine, ça traîne toujours dans votre tête ?
Oui, de temps en temps, ça revient, mais pas souvent. Non, la poésie, vous savez, elle est dans les mots, là... Ici, aujourd'hui, mais elle est chez les êtres aussi. Il y a des êtres qui sont vraiment des poèmes.
Il y a Peggy aussi, en ce moment.
Oui, Peggy, chez vous. En ce moment. Ça, c'est tous les lundis. Oui, on lit des extraits de ces énormes livres qu'il a pu écrire. Et puis, cette merveilleuse poésie, oui.
C'est une façon de le faire exister ?
Ah ben oui, et puis on est très surpris du succès que ça peut avoir. C'est vraiment étonnant. C'est plein, toujours plein, tout le temps. Mais si vous voulez, on est d'une époque tellement matérialiste. Ce qui compte, c'est les écrans, les machins, les boutons sur lesquels on appuie. Et c'est triste, quoi, d'être esclave de la mécanique comme ça.
Alors on va trouver un moyen ensemble, ce matin, de la faire exister au quotidien, la poésie.
Nous construisons le monde qui nous le rendra bien, car nous sommes au monde et le monde est à nous.
À force de me regarder survivre, tu as conclu à l'extrême gentillesse d'un troupeau de moutons qui ne se fâche jamais et belle à tout venant. Tu t'es trompé, mon frère. Même un mouton pelé a droit à la colère.
Il a dû en traverser des millénaires pour parvenir jusqu'ici.
J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux, complice, parmi eux, souteneur, parmi eux, égorgeur, les mains effroyablement rouges.
Je suis dans la rue, je suis assis sur un banc. Une femme passe, je me lève, je la suis. Vous me suivez ? Je suis donc un homme qui suit cette femme. Et si je suis cette femme, je ne suis pas un homme.
quelques voix, Michael Lonsdale, de ce 18e Printemps des Poètes, dont vous êtes cette année le parrain, une édition qui célèbre les poètes du grand 20e siècle, comme l'appelle Jean-Pierre Siméon, directeur du Printemps. Alors pêle-mêle, comme ça, on a des poètes comme Claudel, Apollinaire, Sandrars, Saint-John Perse, Éluard, Breton, Aragon, Michaud, Ponge, Prévert, Queneau, Tardieu, Sangor, Char, Césaire, Bonnefoy. Vous ne trouvez pas que c'est un peu vaste comme programme ?
Oui, c'est riche. C'est bien.
L'idée, en fait, derrière ce corpus monumental, c'est de dire que le XXe siècle a été en France, pour la langue française et pour l'art poétique, un siècle majeur qui a tout changé, un siècle qui a bouleversé la poésie. En quoi, à votre avis ?
Oui, c'est possible, oui. J'ai pas d'idée là-dessus, très précise.
Alors Bruno Doucet, dont les très belles éditions publient chaque année un livre d'anthologie pour accompagner le Printemps des Poètes, il parle des poètes du XXe siècle comme des émeutiers.
Ah ben oui, enfin, on peut leur donner toutes sortes de noms. Ce sont des magiciens, ce sont des...
Ah, émeutier, c'est pas exactement comme magicien, Michael Lonsdale.
Non.
Vous êtes un émeutier, vous ?
Non, pas du tout.
Non, mais je vous demande ça, parce que ce XXe siècle, vous en avez traversé quand même près des trois quarts.
Oui.
Pas jamais d'émeute ?
Non, je suis pas quelqu'un comme ça. Si je suis en colère ou si je suis contrarié, ça se manifeste. Je suis très anglais par mon père. Alors je retiens ça en moi et puis je préfère que ça n'éclate pas.
Au cours de votre carrière, vous avez forcément dû en rencontrer en chair et en os certains de ces grands poètes, non ?
Oui, par exemple pour moi, Samuel Beckett est un grand poète. Quand on relit son œuvre, après sa mort j'ai voulu tout relire. C'est un humaniste incroyable, il n'a parlé que des pauvres, des petits, des rejetés. De la société, alors que pendant des siècles, on a eu des histoires de rois, de reines, de princes et de gens de pouvoir. Et lui, ce sont le plus horrible état de pauvreté, de misère, mais avec beaucoup d'humour, sinon ce serait inécoutable.
Quelque chose de l'ordre de l'insurrection, peut-être, chez lui, justement, doit réagir comme
oui,
ça.
Oui. C'était un homme d'une bonté incroyable. En dehors de son travail, il a aidé les gens beaucoup. L'amitié pour lui, c'était capital. Et c'est un bienfaiteur.
Vous étiez son ami ?
Enfin, dans le travail, oui. On ne se voyait pas en dehors du travail, mais j'ai eu le bonheur de créer avec Delphine Seyrig, comédie. Alors, on a beaucoup travaillé, répété avec lui. Puis ensuite... chez les Barreaux, vers la fin, j'ai lu beaucoup de textes de lui.
Et il vous regardait, il vous dirigeait parfois ?
Non, vous savez, comédie, c'était une chose tout à fait spéciale. C'est dit sur un ton recto tono, à une vitesse de mitrailleuse. Il n'y a aucune inflexion, aucune sensibilité. C'est purement mécanique. Alors pour arriver à faire ça, il a fallu répéter pendant des semaines. Et voilà. Non, c'est un homme, à chaque fois que je le voyais, j'étais, comment dire, je me sentais grand, en sa présence, oui.
Vous êtes arrivé, Michael Lonsdale, d'être troublé, inquiété, dérangé par la parole d'un poète ?
Oh, oui, dérangé, non.
Si je vous pose cette question, c'est parce que la poésie, il ne faut pas l'oublier, quand on la célèbre en France, on l'opprime dans d'autres pays. Cette 18e édition du Printemps, Vous le savez peut-être, elle est dédiée à un poète d'origine palestinienne qui vit et travaille en Arabie Saoudite. Ce poète, il s'appelle Ashraf Fayad.
Tu te débarrasseras de toutes les photos que tu as gardées de ton enfance, de ton adolescence, de ta pauvreté, de ton ex-aimé, des contes de ta grand-mère et de tes virées nocturnes pour t'attaquer à certaines prétendues vertus.
Ashraf Fayad, personnalité éminente de la société saoudienne, il a été condamné à mort la semaine dernière pour apostasie, accusation qu'il récuse énergiquement.
C'est un poète qui a 35 ans et vient d'une famille de réfugiés palestiniens installés en Arabie Saoudite depuis près de 50 ans maintenant. Son travail de poète est particulièrement suivi dans son pays mais aussi au Royaume-Uni, travail dans lequel il évoque l'amour, la question de l'identité mais aussi les conséquences économiques de l'économie du pétrole sur la région, la condition de réfugiés palestiniens dans un pays comme l'Arabie Saoudite.
Tu démentiras toutes les informations, les revues de presse, les analyses des spécialistes en dernier cri de la mode.
La mobilisation de la communauté internationale est très forte et une pétition en faveur de sa grâce vient de passer cet après-midi la barre des 200 000 signatures.
Circonstance aggravante, Ashraf Fayad a les cheveux longs et son portable contenait des photographies de femmes, des amis à lui. Il a été condamné à la décapitation.
Tu feras tienne des expériences de ceux qui viendront après toi.
Ashraf Fayad n'a pas pu s'entretenir avec un avocat pendant sa détention ni pendant son procès, que maintenant il est donc susceptible d'être exécuté pour ces faits.
Tu t'exerceras un peu à la mort.
Si Achraf Fayad est exécuté, si l'Arabie Saoudite applique cette sentence, ce sera un crime contre l'humanité. Voilà ce qu'écrit Tahar Benjelloun sur le site du Point, dans un hommage où l'écrivain marocain rappelle que ce sont les poètes qui donnent à la terre son sel, son grain de folie, sa musique et ses songes, que la poésie ne peut être que fulgurance, clarté, doute et intranquillité.
Tu écriras ton nom à l'envers sur le miroir.
We must live together to forget all about the past, and we must build a new life. And have fun, have a good time.
Le créateur n'a que sa plume, son pinceau pour peindre, pour dire le monde, et il doit le dire avec courage. Il doit le dire avec beaucoup de conscience, de responsabilité aussi.
Tu mangeras avec la main droite et laisseras le reste à ceux qui méritent plus que toi. Ta bouche trempée dans le pétrole.
Achraf Fayad.
Oui, le temps des assassins.
Jeune artiste qui est une figure de proue de l'art saoudien, Michael Lonsdale, qui avait représenté l'Arabie Saoudite à la Biennale de Venise en 2013. Achraf Fayad, d'abord apostasié, condamné à mort en novembre, pour être ensuite condamné à 8 ans de prison et 800 coups de fouet. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oh, ça me rend malade. Je préfère ne pas en parler. C'est tellement indigné que la parole, je la contiens, parce que sinon ce serait la folie.
Ce dont on l'accuse, entre autres, Achraf Fayad, c'est de répandre des pensées destructives dans la société, d'avoir renoncé à la foi et tenu des propos blasphématoires.
Oui,
ce qu'il accuse évidemment formellement. La poésie peut-elle au moins être blasphématoire, Michael Lonsdale?
Oui, mais pas trop.
À partir de quel moment il y a blasphème pour vous?
Oh, ben, il y a blasphème à partir du moment où ce n'est plus l'amour. C'est quand c'est la destruction par la haine, oui.
Et on fait quoi dans ce cas-là? On censure?
Non, on n'a pas censuré, il y a accepté, il y a des choses qui sont fortes et belles, et puis d'autres, il faut laisser passer, quoi.
En l'occurrence, cette poésie, hein, celle d'Achraf Fayad, elle inquiète. L'obscurantisme, c'est vraiment un lieu de résistance.
Ah ben oui, bien sûr.
Pour vous aussi, c'est un lieu de résistance, quand même, la poésie?
Oui, c'est un lieu de lumière, c'est un lieu de dévoiler des choses que les mots ne peuvent pas dire.
Je vous pose ces questions, c'est parce que vous êtes croyant, catholique, pratiquant, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. J'imagine que la question de la compatibilité entre art et religion, vous vous l'êtes déjà posée plusieurs fois.
Oui.
Comment, dans vos choix de rôle, est-ce que vous êtes parvenu à concilier l'art et la foi?
Oh ben, oui, j'ai joué des pièces, j'ai joué Claudel, j'ai joué beaucoup d'auteurs qui n'étaient pas croyants. Enfin, pas si, Claudel était croyant.
Ah oui.
Mais non, j'ai fait même des rôles désagréable, le grand inquisiteur avec un film de Miloš Forman, là, oui. Et alors les gens m'ont dit, mais comment tu peux faire ça? J'ai dit, papa, parce que ça existait. Et donc, voilà, et des fois, il y a des rôles pénibles à jouer, mais il faut le faire.
Quand Buñuel, par exemple, vous fait jouer un prêtre sadomaso dans Le fantôme de la liberté en 74.
Oui, il n'a pas dit qu'il est prêtre. Il est parmi les prêtres, il a invité les prêtres dans sa chambre pour quelque chose. On ne va pas décrire tout ça parce que ce n'est pas tout à fait de la poésie.
Ça peut l'être. Qu'est-ce que vous vous interdisez, Michael Lonsdale?
Comment?
Qu'est-ce que vous vous interdisez?
Oh, je m'interdis de juger. Je m'interdis de... Oui, souvent avec les amis le soir, on dîne, on mange, puis on commence à déblatérer sur tout le monde.
Aïe.
Alors j'ai dit arrêtez, c'est pas bon ce que vous faites là, c'est trop facile, et parce que les gens avec une férocité commencent à dire oui, t'as vu, elle a fait ça, puis alors etc. Alors j'ai dit j'arrête, moi, écoutez, je pars, ou alors vous changez de conversation.
Et ils arrêtent?
Ben une ou deux fois, oui, un peu consterné, très embêté de pas pouvoir s'exprimer.
Vous êtes un censeur, Michael Lonsdale.
Eh ben oui, il faut trancher par moment. Hein. Qui était-elle? On le sut plus tard. Anne-Marie Streeter. Était-elle belle? Quel était son âge? Qu'avait-elle connu, elle, que les autres avaient ignoré? Par quelle voie mystérieuse était-elle parvenue à ce qui se présentait comme un pessimisme gai, éclatant, une souriante indolence, de la légèreté d'une nuance, d'une cendre? Une audace pénétrée d'elle-même, semblait-il, seule, la faisait tenir debout. Avait-elle regardé Michael Richardson en passant? L'avait-elle balayé de ce non-regard qu'elle promenait sur le bal? C'était impossible de le savoir. C'est impossible de savoir quand, par conséquent, commence mon histoire de l'Olvestein. Le regard chez elle logeait dans toute la surface des yeux. Il était difficile à capter. Elle était teinte en roux, brûlée de rousseur, Ève marine que la lumière devait enlaidir. S'était-il reconnu lorsqu'elle était passée près de lui? Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la dernière fois de leur vie, Tatiana Karl l'avait trouvé pâlie et sous le coup d'une préoccupation subite, si envahissante, qu'elle sut qu'il l'avait bien regardée, lui aussi, la femme qui venait d'entrer. Lol, sans aucun doute, s'aperçut de ce changement. Elle se trouva transportée devant lui, parut-il, sans le craindre, ni l'avoir jamais craint, sans surprise, la nature de ce changement paraissait lui être familière. Il était devenu différent. Tout le monde pouvait le voir, voir qu'il n'était plus celui qu'on croyait. Lol le regardait changer. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis, son visage s'était resserré dans la plénitude de la maturité, de la douleur s'il lisait, mais vieille, du premier âge. Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde n'aurait eu raison du changement de Michael Richardson. Elle commençait déjà, la nouvelle histoire de Michael Richardson, à se faire. Cette vision et cette certitude ne parurent pas s'accompagner chez Lol de souffrance. Tatiana la trouva elle-même à changer. Elle guettait l'événement, couvait son immensité, sa précision d'horlogerie. Lol dansa encore une fois avec Michael Richardson. Ce fut la dernière fois. La femme était seule, un peu à l'écart du buffet. Sa fille avait rejoint un groupe de connaissances vers la porte du bal. Michael Richardson se dirigea vers elle dans une émotion si intense qu'on prenait peur à l'idée qu'il aurait pu être éconduit. Lol, suspendue, attendit elle aussi. La femme ne refusa pas. Ils étaient partis sur la piste de danse. Lol les avait regardés, une femme dont le cœur est libre de tout engagement, très âgée, regarde ainsi ses enfants s'éloigner. Elle parut les aimer. Tatiana était restée auprès de Lol. Lol avait instinctivement fait quelques pas en direction d'Anne-Marie Streiter, en même temps que Michael Richardson. Tatiana l'avait suivi. Alors, elle vit. La femme entr'ouvrit les lèvres pour ne rien prononcer, dans la surprise émerveillée de voir le nouveau visage de cet homme aperçu le matin. Dès qu'elle fut dans ses bras, à sa gaucherie soudaine, à son expression abétie, figée par la rapidité du coup, Tatiana avait compris que le désarroi qui l'avait envahi, lui, venait à son tour de la gagner. Lol était retournée derrière le bar et les plantes vertes, Tatiana avec elle. Ils avaient dansé, dansé encore, lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle, plus petite, ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé. La première danse terminée, Michael Richardson s'était approché de Lol, comme il avait toujours fait jusque-là. Il y eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui avait souri. Puis à la fin de la danse qui avait suivi, il n'était pas allé retrouver Lol. Anne-Marie Streiter et Michael Richardson ne s'étaient plus quittés. Lol restait toujours là où l'événement l'avait trouvé lorsque Anne-Marie Streiter était entrée derrière les plantes vertes du bar. Tatiana, sa meilleure amie, toujours aussi, caressait sa main posée sur une petite table sous les fleurs. Oui, c'était Tatiana qui avait eu pour elle ce geste d'amitié tout au long de la nuit. Avec l'aurore, Michael Richardson avait cherché quelqu'un des yeux vers le fond de la salle. Il n'avait pas découvert LOL. Il se passa la main sur le front, chercha dans la salle quelques signes d'éternité. Le sourire de LOL Wechstein, alors, en était un, mais il ne le vit pas.
Un extrait du ravissement de LOL Wechstein de Marguerite Duras, ça peut pas faire de mal.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Vous connaissez la chèvre de Monsieur Seguin, c'est-à-dire qu'il en est un petit peu la synthèse. Somme toute, il est chèvre et Monsieur Seguin tout à la fois. Vous savez, avec ses airs de créature mythologique, un peu hybride, sorte de centaure, avec ses longs cheveux blancs, une barbiche, son regard énigmatique aux paupières tombantes, chemise à carreaux, pantalon en velours, mocassin mou. Donc c'est un mélange entre le vieux sage chinois, droupi, dans la langue d'Alphonse Daudet, Michael Lonsdale, mon invité dans Boomerang, pour célébrer en fanfare l'arrivée demain du printemps des poètes placé sous le signe du grand XXe siècle. La poésie, Michael, elle se lit, mais elle se dit, elle s'écoute aussi. Et il se trouve que vous êtes un diseur de littérature et de poésie. Ce goût de la lecture à haute voix, il vous est venu comment? Vous vous souvenez?
Oh ben depuis longtemps, parce que j'ai commencé à être comédien à la radio au Maroc pendant la guerre. Il y avait des émissions enfantines. Et alors, un copain me dit, tu sais, viens, parce qu'il cherche des jeunes, là. Alors, je suis allé, et puis on m'a engagé tout de suite. Mon premier rôle, c'était Hatchoum dans Blanche-Neige et les Sept Nains.
Est-ce qu'il vous a marqué, ce rôle d'Hatchoum?
Ah oui, ben, j'étais content, et puis alors on chantait, on s'amusait, surtout une heure après l'émission. Et puis, je ratais pas ça. Ah non, c'est essentiel pour moi.
C'est-à-dire que votre métier...
C'est l'endroit où j'ai pu m'exprimer en tant qu'artiste, quoi.
Ça veut dire que votre métier, il vient de là, en fait, de la voix, de la lecture à haute voix.
Ben, la pratique, oui. Mais j'étais un passionné de cinéma, surtout. Parce qu'au Maroc, il n'y avait pas de théâtre pendant la guerre. Mais alors, les films, oui, quand les Américains ont débarqué, il y avait des séances de cinéma tous les après-midi pour les soldats ou les officiers. Et comme j'allais pas à l'école, les officiers ont dit à mes parents, mais et s'ils aiment le cinéma, qu'ils viennent. Alors je me tapais un film tous les jours. Alors c'était une inondation dans ma vie.
Sur la lecture à haute voix, moi je vous vois bien, je sais pas pourquoi, comme ça, faire la lecture au coin du feu, éclairée par une lampe à pétrole aujourd'hui, quand je vous regarde ce matin. Vous faites ça quotidiennement, lire à haute voix?
Ah non, pas tout seul, non. Si je lis à haute voix, c'est pour quelqu'un, oui.
Si je vous pose la question, c'est que c'est pas forcément une évidence pour tous les comédiens, la lecture à voix haute. Ça peut être une expérience trop intime, la lecture, pour être partagée.
Je sais pas, c'est une affaire de... Si, je sais pas, quand je lis, je suis pris par quelque chose qui est émouvant intérieurement. Enfin. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion, je suis très content de pouvoir lire.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de donner de vous, Michael Lonsdale?
Oh ben, je donne ma capacité de lire, plus ou moins correctement, enfin oui.
Et vous dites quelque chose d'intérieur?
Oui, ben, c'est intime ça, on ne peut pas en parler.
Je veux dire, moi, quand je vous entends lire, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prière. Peut-être parce que je vous ai lu aussi, et que ça fait partie de votre quotidien. À qui est-ce que vous vous adressez quand vous lisez?
Je m'adresse à tout le monde, oui.
Et à vous-même aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et à Dieu?
Je suis bien obligé de m'écouter. Hein.
Et à Dieu aussi?
À Dieu, oui, c'est une création, oui. Nous sommes missionnés pour créer, donner vie à ce qui est le travail de quelqu'un d'autre, et partager son émotion, son sens de la vie, sa beauté. C'est comme du loukoum pour les oreilles.
Et la lecture, la performance de lire, ça nécessite une préparation ou est-ce que vous vous jetez dans un texte comme ça d'instinct?
Ah oui, tout de suite. Non, je répète jamais. Même au théâtre, j'aime pas répéter, je m'ennuie. Je n'aime qu'improviser. Alors, je peux pas improviser quand je lis des poèmes, bien sûr, mais enfin, j'essaie de les colorer par quelque chose qui me guide comme ça. Je sais pas comment nommer. C'est l'instinct. Oui.
On va se lancer, Michael, avec un poème de Louis Aragon.
Je chante pour passer le temps.
Tiré de l'anthologie du Printemps des Poètes, publié aux éditions Bruno Doucet. C'est un poème de 1956 qui s'appelle effectivement « Je chante pour passer le temps », qui avait été repris, ce poème, par Léo Ferré, et qu'on trouve dans le roman inachevé.
Oui. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre. Comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur, content à lancer cailloux sur les temps. Je chante pour passer le temps, J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles, notre univers n'est plus pareil. Ah, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons, que ses doigts se dénouent, comme le font d'avec la gloire. Nos yeux furent les premiers à voir les nuages plus bas que nous et l'alouette à nos genoux, alors que ses doigts se dénouent. Nous avons fait l'éclair de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent, puisqu'on nous tue. Les nuits tomberont, une à une, la Chine s'est mise en commune. Nous avons fait l'éclair de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les mondes, les mers et les secrets. Et j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante au violon, sus de l'archer, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Je passe le temps en chantant, et je chante pour passer le temps.
Je chante pour passer le temps, Michael Lonsdale, Lee Aragon, en exclusivité dans Boomerang. Et vous, Michael?
Oui.
Vous chantez pour passer le temps?
Oh oui, mais vaut mieux pas chanter en public, parce que... Je vois tout de suite les visages qui se crispent. Non, j'ai dû chanter des fois dans des spectacles, mais il a fallu travailler, hein, parce que... C'est un complexe que j'ai toujours... Je chante faux. Et c'est pas bien, ça, c'est parce que... tout le monde pourrait chanter juste. Mais il y a dû y avoir, dans mon enfance, j'ai dû faire quelque chose où on m'a interdit de chanter ou... Oui, alors voilà, c'est resté. Vous savez, les enfants, ça garde ces choses-là. Hein.
On peut chanter faux et jouer juste.
Alors, je chante, oui, des fois comme ça, oui. Je chante Carmen, oui, j'aime bien.
Vous n'avez pas vu chanter Carmen maintenant, quand même, Michael Lonsdale?
Non, vaut mieux pas.
J'ai envie de vous le demander, quand même.
Oui, l'amour est enfant de poème, mais jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi.
Vous chantez hyper juste.
Oui.
Merci beaucoup, Michael Lonsdale, d'être venu faire un tour dans Boomerang. C'était une rediffusion de Boomerang du 4 mars 2016. Michael Lonsdale, dont on a appris la mort hier, nous parlait de poésie et devenait, à mon sens, lui-même un poème. C'est comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de lui. Merci à David Le Prince et Lola Costantini. Tout de suite, les médias, juste après ça.
Quand il faut que je me dépêche, et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire.
Magnifique paradigme tout en big band, La Femme, le nouveau titre de La Femme sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia de Villars. Vous m'entendez, Sonia?